parole de Dieu, préparer notre belle fête de Noël, nous inscrire dans notre avant, écouter la prédication de Saint Jean-Baptiste qui nous invite à nous mettre à la suite de l'agneau de Dieu, qui nous invite à diminuer pour que lui grandisse, donc on va essayer de le faire grandir en l'écoutant déjà, et nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Saint-Marc, donc non seulement pour apprendre à mieux connaître le Seigneur Jésus, mais aussi pour nous préparer à aller sur les lieux où cet évangile a été proclamé, où il s'est vécu, c'est-à-dire à préparer notre pèlerinage en Terre Sainte. Alors nous avions vu que les premiers temps de la mission de Jésus avaient été consacrés à faire comprendre que le Fils de l'homme avait aussi une dimension divine, que le Fils de l'homme n'était pas seulement un homme, mais qu'il avait rang divin, parce que le Fils de l'homme est Fils de Dieu, face à l'incrédulité, à l'incompréhension et à l'hostilité des pharisiens. Je n'y reviens pas dans le détail, puisqu'on a déjà parlé. Et nous avions dit que le deuxième temps de cette mission, c'était pour annoncer que non seulement Jésus est le Fils de Dieu, mais qui nous invite, qui nous appelle, telle est notre vocation dans le Christ, à devenir, à notre tour, enfants de Dieu. Et nous avions vu que pour cette deuxième partie, ce deuxième volet, en quelque sorte, de sa mission, eh bien, il y avait, en quelque sorte, deux pôles, à la fois que le Christ s'éloignait de sa famille de sang, ou en tout cas que sa famille de sang s'éloignait de lui, puisqu'elle ne comprenait pas pour une bonne partie son agir, sa parole, et qu'elle voulait en quelque sorte le retenir, qu'elle voulait le ramener finalement chez lui, qu'elle voulait le ramener dans l'ombre, qu'elle voulait le ramener à la raison. Donc il y a cet éloignement par rapport à la famille de sang, et au contraire la constitution d'une famille selon l'Esprit, qui préfigure déjà l'Église, qui est la famille des enfants de Dieu, qui sera fondée à la Pentecôte avec l'envoi de l'Esprit-Saint, mais déjà les fondements, les fondations de cette famille de Dieu selon l'Esprit, de cette famille de Jésus selon l'Esprit sont posés avec le choix des douze, avec ce nom nouveau donné à certains apôtres. Je vous disais, c'est comme le père de famille qui donne le nom à son fils. Jésus donne un nom nouveau à certains de ses apôtres pour souligner cette dimension familiale. Et puis, il y avait cette déclaration très forte du Christ qui dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi une mère, un frère, une sœur. » Donc, voilà, cette phrase décisive du Seigneur Jésus qui ouvrait finalement voilà, les frontières de sa famille, non seulement à ceux qui lui étaient liés par la chair et le sang, mais surtout à ceux qui lui sont liés par l'Esprit, donc qui reconnaissent effectivement en Dieu ce Père de tous, dont eh bien, nous sommes appelés à faire la volonté. Ça, c'est ce qu'on a vu un peu la dernière fois, je ne sais pas si c'est encore frais dans vos esprits juvéniles. Et vous avez des questions, tout aussi juvéniles, ou au contraire très sages, à poser sur. Alors, nous continuons la lecture. Et je pense que, si je ne me trompe pas, nous reprenons au chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour 1. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à tous ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, il y a ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Il leur disait encore, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Et quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Donc, pas encore tout à fait la fin de cette deuxième grande partie, où Jésus donc nous invite à rentrer dans sa famille, à devenir enfant de Dieu, mais je fais quand même une petite coupure, parce que le texte est... Et dense, alors, comme vous l'aurez compris, c'est une partie qui est très centrée sur les paraboles de Jésus, sur la manière de les comprendre, sur leur sens profond. La première parabole, celle de la semence, expliquant d'une certaine manière et éclairant tout le reste du propos. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que ces paraboles, elles mettent en œuvre le thème de la fécondité, le thème de la vitalité. Elle se termine par cette vision des oiseaux qui font leur nid dans les branches de cette plante potagère qui est au départ la plus petite des graines. Donc je dirais, cela nous ramène d'une certaine manière à ce thème principal de cette deuxième partie qui est le thème familial, qui est le thème justement de la fécondité. Rappeler que cette famille de Jésus, elle n'est pas fondée seulement sur notre bonne volonté, comme si c'était une association, la loi 1901, et qu'on se groupe tous en voulant faire quelque chose par nous-mêmes, cette fécondité, elle nous vient de Dieu. Cette famille de Dieu, elle tire sa vitalité, elle tire sa fécondité du fait de recevoir la parole qui, ensuite, en nous, porte du fruit. Je dirais, ça nous ramène encore à ce fondement, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est une mère, un frère, une sœur. Pour faire la volonté du Père, il faut déjà entendre sa parole, la recevoir dans la bonne terre, Et ensuite, effectivement, elle porte du fruit et elle fait notre unité comme celle de cette petite famille d'oiseaux et d'oisillons dans les nids de l'Église. Donc, vous voyez, on reste dans ce thème principal. Après, une fois qu'on a décrit ce thème principal, peut-être que vous avez des questions sur ces différentes paraboles que nous venons d'entendre. Certaines que nous entendons plus fréquemment à la messe, notamment celle du semeur, qui est, je crois, le dimanche de la sexagésime, et d'autres qui sont peut-être plus étonnantes, ou des paroles du Christ sur ce qui est caché, sur ce à qui on a, à qui on donnera encore, ce à qui on n'a pas, à qui on enlèvera même ce qu'il a. On va peut-être poser des questions plus en détail de du texte.
Et ça peut être différemment car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Moi, ça m'a toujours un peu perturbé cette parole-là. Comme en fait aussi la parole du prophète, là, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas pourquoi est-ce que, voilà, ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. C'est aussi pourquoi certains, finalement, comprennent et puis d'autres ne comprennent pas.
Bon, je serais taquin, je dirais que ça rappelle les gilets jaunes, parce que sinon, ceux qui ont, on leur laisse beaucoup, et ceux qui n'ont plus rien, on leur enlève même ce qu'ils ont. Mais bon, c'est pas ça que le Christ a voulu dire, je pense. Même si on peut en avoir une application très concrète.
Oui, c'est vrai. C'est vrai,
hein.
Au niveau économique.
Économique, ça marche bien, hein.
Ah. Mais là, je ne pense pas qu'il pense à l'économie. Là.
Non.
C'est plus profond quand même.
Mais effectivement, c'est une description de tout l'enseignement du Christ qui, effectivement, va se faire essentiellement en parabole. Et le Christ, pour lancer cet enseignement en parabole, commence par cette parabole du semeur pour bien nous faire comprendre qu'il y a deux éléments pour que la fécondité ait lieu. Il faut la graine, il faut la semence, mais il faut aussi la bonne terre. Donc, ce qui veut dire, voilà, que la parole du Seigneur, certes est toute puissante, certes est sage, certes est belle, mais il faut un cœur pour la recevoir. Et ce cœur, eh bien, il doit être ouvert, il doit être disposé. Et c'est pourquoi le Christ parle en parabole, également pour susciter l'attention, pour susciter le désir. C'est-à-dire, le Christ ne donne pas un enseignement didactique, magistral, qui peut-être nécessiterait juste une écoute un peu paresseuse. Bon, ceux qui sont allés à la fac, peut-être voient de quoi je parle. Voilà, bon, quand le professeur, Stéphanie, qui est une bonne élève, mais les autres, voilà, quand le professeur parle, bon, on peut un peu débrancher parfois, ça c'est pour ça passionnant, mais on peut se contenter d'une prise de notes un peu paresseuse, on n'y met pas forcément son cœur, sauf si le professeur de lui-même justement va plus loin et fait intéresser l'étudiant, justement souvent en dépassant un cours uniquement voilà, magistral et intellectuel. Donc le Christ parle en parabole justement pour que cet enseignement énigmatique, mystérieux, qui est à la fois ancré dans une réalité que les auditeurs connaissent bien, donc il y a quand même un point d'ancrage fort, mais qui en même temps, les auditeurs le comprennent bien, veut les emmener plus loin, et bien que cette manière de faire les oblige d'une certaine manière à creuser par eux-mêmes. Donc, ce que j'ai dit mon sermon il y a un mois ou un mois et demi, c'est-à-dire que la parabole, c'est un genre littéraire bien adapté à cette prédication de foi, parce que son côté mystérieux rend compte que ce que le Christ va nous dire est quand même un mystère pour nous. Il nous parle du cœur de Dieu, il nous parle des profondeurs de la divinité, donc c'est quand même quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours au super-U. Donc voilà, ça rend compte de ce mystère, et en même temps, comme c'est un phénomène qui reste en quelque sorte voilé, eh bien, ça doit nous obliger à nous positionner. Voilà. Si je veux aller au-delà, eh bien, il faut que je reste avec Jésus pour lui demander, mais maître, que veux-tu nous dire? Et vous voyez, on voit bien que quand il reste à seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Et le Christ ne dit pas, il y a un enseignement initiatique pour certains qui sera toujours caché pour d'autres, puisqu'il le dit au contraire. La lampe est faite pour être mise sur le lampadaire, et tous les passages sont importants. La lampe est faite pour être mise sur le lampadaire, rien n'est caché sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Donc le Christ démine en quelque sorte cette idée qu'on pourrait se faire, et que se feront ce qu'on appelle les gnostiques, dire il y a un enseignement supérieur initiatique réservé à une caste, et qui procure le salut, et puis il y a les enseignements du tout venant qui sont là un petit peu pour amuser la galerie. Le Christ dit non, voilà, cette parole qui est lumière est faite pour être mise sur le lampadaire. Rien ne sera caché, rien ne sera gardé secret, elle est pour tous. En revanche, effectivement, quand le Christ enseigne sur sa barque aux personnes qui sont sur le rivage, ben, il y a ceux qui sont touchés par le Christ, touchés par cette curiosité, peut-être d'aller plus loin, touchés par le regard de Jésus, par son visage, et qui veulent comprendre ce que cet homme, donc ils sentent bien qu'il a un secret, qu'il a un mystère, qu'il a un trésor, veut leur dire. Et puis il y a ceux qui repartent en disant, ben oui, mais nous on a d'autres choses à faire, on a des vaches à traire, on a des poissons à pêcher. Voilà, comme parfois dans les paraboles, quand le roi invite aux noces, c'est que les autres disent, ben non, on n'a pas le temps, j'ai d'épouser mon épouse, j'ai une lune de miel à faire, j'ai viens d'acheter une vache, etc. Donc il y aura toujours ces deux grandes catégories. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin, alors le Christ le dit, parce que Satan vient tout de suite les tenter, et puis il vient leur dire, va plutôt sur YouPorn que d'aller voir le Christ pour qu'il t'explique. Et il y a ceux qui sont dans la ferveur, c'est super, mais ils voient qu'il y a quand même du monde autour de Jésus, donc ils n'ont pas le courage d'attendre, et puis ils s'en vont en disant, bon, je ferai ça une prochaine fois, et puis là, l'enflammade du début est tout de suite retombée. Il y a ceux, effectivement, voilà, les séductions, les soucis du monde, ah ben, j'aimerais bien rester, mais bon, c'est trop compliqué, puis je dois m'occuper de ça, et ça. Voilà, il y a toutes ces différentes catégories qui, pour différentes raisons, qui tiennent à leur histoire, qui tiennent à leur péché, qui tiennent à leur tempérament, ne vont pas aller au-delà. Et puis il y a ceux qui, c'est pas que les douze, c'est important de le noter, c'est tous ceux qui sont autour de lui, dont les douze, mais c'est beaucoup plus large, et qui demandent à aller plus loin. Et donc, eux, le Christ leur donne la lumière définitive. Mais il était prêt à la donner à tous. D'où la tournure ironique du prophète, d'Isaïe. Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendraient pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Mais en fait, dans Isaïe, c'est pas tout à fait tourné comme ça, mais c'est... ils ne comprendront pas de peur de se convertir et de demander pardon. Voilà, il y a cette ironie de ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont une intelligence mais ne comprennent pas, de peur de se convertir et de demander pardon. C'est-à-dire que, effectivement, ils sont là autour du Christ, ils écoutent, ils voient, les mots résonnent dans leur intelligence, mais il y a un blocage parce que ils n'ont pas envie d'aller plus loin, ils n'ont pas envie de se convertir, ils n'ont pas envie d'être bousculés par cette parole. Et donc ils se disent, bah voilà, je ne comprends pas, et d'un côté c'est mieux, et je m'en vais. Alors que vous voyez, celui qui a, on lui donnera, ça veut dire celui qui a le cœur ouvert, le cœur bien disposé, celui qui a accepté de rester avec Jésus, celui qui présente son cœur comme une bonne terre pour recevoir la parole, eh bien, non seulement il a cette bonne disposition de départ, mais en plus, grâce à cette bonne disposition de départ, il recevra le sens profond de la parabole, il recevra la parole dans sa totalité, et cette parole portera du fruit dans son cœur. Alors que celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui est venu vers Jésus, qui était sur ce littoral, mais qui n'a pas ouvert son cœur, c'est pas qu'il n'a pas pu, c'est celui qui n'a pas voulu. On ne dit pas, celui qui était médecin, et puis qui a dû soigner un gars qui faisait une crise cardiaque à ce moment-là, et puis donc il n'a pas eu la possibilité d'écouter la parole de Jésus. Mais celui qui n'a pas voulu ouvrir son cœur, eh bien, même ce qu'il a, c'est-à-dire cette curiosité quand même initiale d'être venu sur le littoral, qui pouvait être une amorce pour se convertir, eh bien, au contraire, ça va l'emmener à une situation pire qu'avant. Donc, d'une certaine manière, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a, c'est-à-dire celui qui n'est pas allé jusqu'à la seconde étape d'ouvrir son cœur, eh bien, finalement, il est dans un état pire que le bouddhiste au fin fond de son Tibet, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, et qui, du coup, ne s'est pas positionné contre Jésus. Parce que, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui s'en vont, alors qu'ils ont entendu Jésus, alors qu'ils l'ont rencontré, et ceux qui s'en vont sans vouloir aller plus loin, bah, ils posent un acte quand même qui tourne le dos à Jésus. Donc c'est d'une certaine manière pire que ceux qui ne sont pas venus du tout. Donc vous voyez, tout ce passage est très important parce qu'en fait, c'est une parabole qui explique tout le système des paraboles en quelque sorte. C'est pas juste une parabole comme d'autres paraboles sur le royaume de Dieu. Etc. Là, toute cette parabole de la semence, elle explique en fait comment se passe l'enseignement de Jésus. Donc c'est une espèce de, comme une babouchka, comme une poupée russe que vous avez à l'intérieur de la parabole. Vous avez comment écouter une parabole. Et donc voilà, complété par cette petite parabole aussi de la lumière sur le lampadaire, qui nous montre voilà, qu'il n'y a pas un enseignement réservé et complété aussi par cette parabole de la mesure, donc la mesure c'est une espèce de comme un verre qui sera mesuré, comme quand on fait des gâteaux. Hein. La mesure que vous utilisez, on l'utilisera aussi pour vous, c'est-à-dire que c'est la mesure avec laquelle vous ouvrez votre cœur, eh bien, c'est la mesure de grâce que vous recevrez. Toute proportion gardée, c'est-à-dire que la dernière journée dit que Dieu donne toujours plus, mais que celui qui s'ouvre à 2, Dieu donne 4, et celui qui s'ouvre à 3, Dieu donne 6. C'est-à-dire qu'il y a quand même une surabondance de Dieu, mais il y a aussi une justice de Dieu qui proportionne son don à l'ouverture de cœur, parce que là, Dieu nous respecte aussi dans notre liberté. Donc, si on a juste entrouvert un peu la fenêtre, le soleil rentre un petit peu. Et si on a ouvert grand les volets, le soleil rentre enfin dans la pièce. Je ne sais pas si ça vous éclaire davantage. Et vous voyez, les paraboles se suivent et se complètent mutuellement, puisque après avoir exposer cette parabole de la mesure où le Christ nous dit que voilà, la disposition de notre cœur est déterminante pour le don de la grâce. Il nous donne aussi cette parabole de la semence qui pousse sans que l'homme n'y fasse rien, pour nous rappeler que certes, si notre disposition de cœur est déterminante, il y a quand même cette action de Dieu qui est première et qui est souveraine, je dirais. Donc, qui dépasse quand même, même si elle demande notre bonne disposition, mais elle la dépasse aussi, parce qu'elle la prépare, et comme je disais, Dieu donne toujours plus largement que juste notre ouverture de cœur.
Est-ce que vous mettez un peu ça aussi dans le passage du pays, en dehors de la peur, en fait, de se converser, parce que ce n'est pas aussi, quand il dit de toute leur Dieu, de toute leur forêt, c'est-à-dire tant que l'homme reste, en fait, centré sur lui-même, il essaye de faire les choses par ses propres moyens, et bien il n'y arrivera pas tant qu'il n'a pas laissé Dieu agir en première, regarder à travers les yeux et entendre à travers les oreilles.
Oui, c'est sûr que, effectivement, cet enseignement de la parabole, il demande forcément une grande humilité de cœur, parce que justement, c'est par définition, c'est un enseignement où on ne peut souvent pas trouver tout seul le sens caché. Donc c'est d'où l'intérêt de la parabole, c'est qu'elle nous oblige justement à ne pas rester à un niveau intellectuel, mais à aller dans cette rencontre personnelle avec le Christ, à lui demander, mais Seigneur, que voulez-vous me dire? Et donc, effectivement, il y a cette idée que normalement, la parabole, oui, si on pense qu'avec nos seuls moyens humains, on va la comprendre, bah, souvent, on va rester un petit peu à côté de la plaque. Donc, ça me fait penser à saint Thomas d'Aquin, qui, quand il ne comprenait pas parfois un passage d'Écriture sainte, mettait la tête dans le tabernacle. Donc, on a retrouvé déjà la tête dans le tabernacle pour demander à Jésus, mais qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce passage? C'est très beau. Bon, après, je garderai la clé quand même dans cette fille. Je ne retrouve pas tous la clé en tabernacle, la tête dans le tabernacle, mais vous voyez, cette idée que voilà, les saints aussi, les saints d'ailleurs d'abord, et ça veut dire que ce n'est pas propre à la vie terrestre de Jésus, ce mouvement d'aller vers lui et de lui demander, mais Seigneur, que voulez-vous me dire? Vous voyez, quand on lit l'évangile, il faut interpeller le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, voilà, que voulez-vous me dire? Et le Seigneur Jésus nous répond à travers des inspirations qu'il nous donne intérieurement. Il nous répond aussi à travers son Église, évidemment, à travers les pères de l'Église qui ont commenté ces évangiles, à travers le prêtre à qui on peut demander des explications. Il nous répond aussi parfois à travers la Providence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui tout d'un coup, par une situation, par une rencontre, par quelque chose qui illustre, bien, on va davantage comprendre. Mais vous voyez, je pense que c'est important. Parce que cet enseignement de la parabole, il ne vaut pas que pendant les 3 années de ministère public de Jésus, il vaut aussi pour nous maintenant. C'est-à-dire, c'est pas seulement, je lis Saint-Marc, j'ai rien compris, je ferme et je sors pour aller faire des courses. C'est, je lis Saint-Marc, je ne comprends pas, eh bien, je me mets en prière et puis je demande vraiment au Seigneur Jésus de m'aider dans cette foi, qui est la foi, alors, pour le coup, de toute l'Église, que l'Esprit Saint qui a guider la parole du Christ, qui a guidé la plume ou le roseau de Saint-Marc, est toujours à l'œuvre dans notre cœur et continue de nous éclairer, ce qui fait de cette parole une parole vivante. Parce que je pense que c'est pas une parole morte qu'on exhume comme ça de l'histoire, puisque son auteur principal est encore vivant, parce que son auteur principal c'est Dieu, et donc que Dieu nous parle et nous fait comprendre aussi ces paraboles. Lui, il nous fait comprendre par 2 lumières complémentaires, les lumières intérieures, qu'il ne faut pas négliger, et puis les lumières extérieures, qui sont les enseignements de l'Église, puisque l'Église a mission d'exposer la révélation, de l'expliquer, de la défendre, d'en dévoiler les richesses. Donc, voilà, comme Dieu ne va pas mettre l'Église au chômage, et il nous invite aussi à aller voir l'Église, parce que c'est sa mission de nous expliquer les trésors de la révélation.
Et des fois, il faut avoir de la patience, hein. Moi, ça m'est arrivé.
Oui, c'est sûr.
Pendant des années, en fait, de ne pas comprendre une parole, et tout d'un coup, voilà. Mais des fois, ça dure longtemps, hein.
C'est ça qui est beau aussi, c'est que justement la parole de Dieu est, je dirais, comme toute belle femme, ne cesse pas prendre trop facilement, et puis en même temps qu'elle a des trésors insoupçonnés qui fait qu'on peut relire un évangile qu'on a lu déjà 50 fois, et d'un coup on découvre quelque chose par un personnage, par un petit mot qui change tout, et c'est ça qui est très très beau aussi. Hein. Mais c'est vrai que quand on ne comprend pas un passage, notamment aujourd'hui grâce à Internet, on a quand même la possibilité d'avoir les commentaires de saint Jean Chrysostome, de saint Augustin, de saint Jérôme sur les passages maintenant très facilement accessibles. Et c'est vrai que c'est souvent d'une grande aide pour comprendre. Alors, peut-être pas pendant la lecture, mais vous voyez, vous pouvez noter le passage. Après, vous tapez sur Google. Saint Jérôme commentaire tel passage, et puis après ça vous sort pendant
le. Ah ben je sais, mais bon.
Vraiment les bénédictins de. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Saint Benoît en Valais aussi. Et ça, ouais, ils ont mis énormément de documents patristiques en ligne, c'est remarquable. Hein. Mm-hmm. C'est fort valé, ça.
Avec des fautes d'orthographie
pour l'entendre. Ils ont mis. Ils ont peut-être numérisé ou quoi. Enfin,
ah, oui.
Mais non, mais c'est vrai que c'est une grande chance. Hein. Après, il y a. C'est un petit investissement, ou alors aller chez les frères dès qu'ils ouvrent leur vente de livres, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi ce qu'on appelle la Bible chrétienne, qui est une édition spéciale de la Bible en deux tomes, avec le tome du texte sacré, puis le tome des commentaires, et qui est vraiment une mine d'explications et de méditation magnifique. Alors, les frères la vendaient à 1 euro, alors sur Internet, elle est vendue à peu près à 100 euros. Mais, ouais. Et j'ai déjà tout acheté.
Tu l'as regardé alors.
Tu l'as regardé
combien?
Ouais, 50. Non, après, ils n'en avaient pas 10 exemplaires. Ils ont un exemplaire de chaque que j'ai déjà offert. Mais ça, c'est vrai, c'est très très beau. Et puis, c'est un commentaire à la fois patristique, donc des pères de l'Église du 1er siècle et des commentateurs contemporains. Une approche souvent plus scientifique, on va dire, donc c'est très complémentaire, c'est très très nourrissant.
Mais bon, quand on cherche, je pense que l'Esprit Saint, il nous donne la solution. Avoir de la patience, mais je crois que. Je sais pas.
Quelqu'un a dit à celui qui cherche, il trouvera.
Ben oui, je crois, mais j'y crois beaucoup.
Mais après, oui.
Quand d'aller chercher à droite à gauche et tout.
Là, c'est pas à droite, c'est pas à droite à gauche, ça, c'est quand même la parole de l'Église.
Mais non, mais ouais. Si on a toujours quand même des questions.
Je dis pas d'aller voir Guy Duchemol et Félicie Soum-Soum.
Non, mais tu l'as dit, si on a quand même cette question qui revient, quoi, toujours, ben, il arrive un moment finalement.
Et c'est comme dans les prières inexaucées, il y a aussi une dimension de désir, c'est-à-dire parfois Dieu ne donne pas le sens pour nous inviter à creuser, parce que c'est peut-être justement une parole qui est décisive pour nous, donc sur laquelle il ne faut pas passer trop vite et il ne faut pas avoir la lumière trop vite, ou au contraire parce qu'on n'est pas prêt, là, on n'est pas le cœur suffisamment disposé, suffisamment ouvert, pour comprendre telle ou telle parole. Donc il y a aussi une sagesse de Dieu, une pédagogie de Dieu. Ben, Dieu n'a pas donné la Bible en un seul jour à Moïse, parce qu'il l'a donné sur des siècles et des siècles, parce que les hommes n'étaient pas prêts dès le début à tout entendre. Donc c'est notre vie qui est une petite histoire sainte, mais c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'est pas prêts à entendre. Je pense qu'il y a des paroles de l'Évangile quand Jésus nous dit celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je pense que c'est une parole sur laquelle on passe souvent un petit peu vite, mais souvent on n'en creuse pas le sens profond et l'exigence qu'elle implique en fait. Donc il y a comme ça des paroles qui sont, je pense, plus réservées à des temps de la maturité spirituelle, alors qu'il y a des paroles plus touchantes, peut-être plus exaltantes, plus attendrissantes, qui vont nous motiver davantage dans les premiers temps de la vie spirituelle, notamment toutes les déclarations d'amour de Dieu. Évidemment, ça c'est très moteur pour les premiers temps de la vie spirituelle, mais voilà, cette réponse aussi d'amour que Dieu nous invite à faire, de l'aimer plus que tout et même de désirer la croix d'une certaine manière pour être en union avec lui et pour le choisir vraiment plus que tout, c'est sûr que c'est cette deuxième phase est souvent plus compliquée.
Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il a de la patience avec nous, mais nous, on doit aussi avoir de la patience et accepter de ne pas tout comprendre et puis que ça vienne petit à petit. Aussi accepté parce qu'il y a des paroles qui sont dures. Hein,
Quand le Christ à Capharnaüm donne le discours du pain de vie, c'est sûr qu'on le dit, dur est cette parole. Il y a des paroles du Christ qui sont dures. Hein. Qui sont dures à comprendre, qui sont dures à vivre, qui sont dures à intégrer. Et c'est là où on en revient à l'humilité dont on parlait. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est pas juste voilà, un livre qu'on lit, dont on assimile tout le sens, et puis qu'on referme, et c'est terminé. C'est un livre qui nous accompagne toute notre vie, qui nous parle durant toute notre vie, et devant lequel il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'il est plus grand que nous, même si effectivement il est tout petit, mais en fait il est plus grand que nous. C'est humilité. Hein, je... Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie parabolique. Alors nous continuons un petit peu. La tempête apaisée. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux pauvres. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds, le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout son bien sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Et on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. On s'arrête là pour cette partie. Comment ce passage qu'on vient de lire, votre avis, se raccroche au thème principal de la famille de Jésus? Cette famille, selon l'esprit de cette famille, des enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus veut constituer.
À la foi, non?
Alors, par la foi, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle qui pourrait vous...
Ceux qui sont dans la barque, ils ont des doutes.
Ceux qui sont dans la barque, on les doute. Ouais.
Alors, c'est un inconnu, là, qui vient de toucher, elle a vraiment
confiance. Et que dit Jésus à la femme qui l'a touché?
Ta foi t'a
sauvé, ma fille.
Ma fille. C'est très beau parce que finalement, il y a ce père qui est le chef de la synagogue qui vient demander le salut pour sa fille de sang, sa fille charnelle. Et Jésus bénira cette famille d'ailleurs. Il demandera au père et à la mère de se tenir près de lui au moment où il ressuscite sa fille qui a 12 ans. Mais en chemin, il croise une femme qui est malade depuis 12 ans et qu'il va aussi d'une certaine manière ressusciter, qu'il va ramener à la vie, puisqu'il va la faire sortir de cette non-vie ou de cette simple survie, de cette vie de maladie, de perte de sang, etc. Et il l'appelle ma fille, alors que cette femme, sans doute, est plus âgée que lui, ou en tout cas le même âge que lui. Mais il l'appelle ma fille parce que, justement, elle est, selon la foi, membre de la famille de Jésus, et qu'il a pour cette femme le même attachement paternel, le même attachement familial que le chef de la synagogue a pour sa fille de sang. Et donc vous voyez, à travers ces deux miracles parallèles, puis c'est beau parce que cette femme, elle arrive comme ça dans la foule, et c'est un peu un miracle inattendu, un miracle non programmé, c'est elle qui vient saisir le manteau de Jésus, mais Jésus, dans sa science divine, bien, voilà, fait ce miracle. À travers ce parallèle, finalement, eh bien, on est encore éclairé sur cette idée forte de cette deuxième partie de la mission de Jésus, c'est-à-dire cette famille selon l'Esprit. Que, voilà, Jésus nous appelle tous mon fils, ma fille, il a pour nous cet amour paternel, comme ce chef de la synagogue qui voulait le salut de sa fille. Et effectivement, on a encore cette idée forte que dans cette famille de Jésus, on rentre par la foi. Cette femme, eh bien, elle a la foi. Et le père, le chef de la synagogue, Jaïr, a aussi la foi. Il rentre aussi, d'une certaine manière, à son tour dans la famille de Jésus. Mais ce qui est très frappant, c'est vraiment ce parallèle. Ma fille, 12 ans, et ce salut corporel que Jésus apporte à la fille de Jaïr, qui est l'image du salut spirituel qu'il vient nous apporter à tous. Et j'invite beaucoup les fervents de messe aussi à penser souvent à ce miracle de cette femme qui avait donc ses pertes de sang depuis 12 ans, parce que quand elle touche le manteau de Jésus, eh bien, il y a cette force de Jésus qui vient la toucher. Et un prêtre, une fois, avait fait ce parallèle que je trouve très beau, avec le fervent de messe, quand il prend la chasuble du prêtre, au moment où le prêtre agit in persona Christi, au moment où c'est vraiment le Christ qui agit à travers lui pour faire le miracle de la messe, faire que le pain devient le corps, le vin devient le sang, et que c'est au moment de la consécration, la croix de Jésus qui est là devant nous, Jésus qui sort, et donc le prêtre ne s'appartient plus à ce moment-là, il donne son corps au Christ pour que le Christ fasse le miracle à travers lui, et donc le servant de messe qui saisit la chasuble à ce moment-là, eh bien, il saisit le vêtement de Jésus, comme cette femme a saisi par derrière le vêtement de Jésus, et en a reçu une grande grâce. Et donc il y a, je pense, quelque chose de très beau pour les servants de messe à méditer sur ce moment de la consécration où ils attrapent la chasuble pour l'élévation ensuite. Je ne sais pas si vous aviez des questions sur ce passage, à la fois sur la tempête, le possédé, Jaïr et donc la femme, on sent que Saint-Marc n'aime pas beaucoup les médecins aussi. Une petite diatribe anti-médecin, là. C'est pas Saint-Luc, hein. Luc, médecin, il défend la corporation, là. Et on avait souffert du traitement de nombreux médecins. C'est presque pire que la maladie en elle-même. Il n'avait pas oublié de soutirer tout son argent, en plus, à cette pauvre dame, là.
Possédé par une démon. Pourquoi est-ce que Jésus est obligé de demander le nom de ces démons, et pourquoi est-ce qu'il est obligé de les envoyer dans un tout autre champ? Oui. Vous ne pouvez pas d'abord essayer très bien qui c'était, et ensuite pourquoi est-ce qu'il les envoyait pas tout simplement à la Bouddhien? Ouais, pourquoi il s'en prenait sur le coup de démon qui est.
Après, je ne vous cache pas que c'est un passage effectivement un peu énigmatique, dont on n'a pas forcément toutes les clés. Bon, je dirais que le Christ lui demande son nom. En même temps, si on part du principe que le Christ ne posera pas de questions parce qu'il sait déjà la réponse, le Christ ne posera jamais de questions. C'est-à-dire que, de même, il n'y a plus d'histoire. Hein. Et c'est triste. C'est comme lorsque le Christ dit « qui m'a touché ?» Dans sa science divine, il sait très bien qui l'a touché. Mais, je dirais, poser les questions, c'est quand même déjà montrer que le Christ est vraiment homme, et donc qu'il a aussi des choses, selon sa nature humaine, à apprendre à travers ce dialogue. Et puis, c'est aussi obliger l'interlocuteur, on en revient aux paraboles, à se positionner, c'est-à-dire... Quand il demande à la femme, enfin quand il demande qui m'a touché, ça oblige la femme aussi à poser cet acte de courage, d'humilité, de foi, de dire c'est moi, et en même temps de la mettre en lumière, et ça permet justement au Christ de la récompenser de sa foi et de l'appeler ma fille, ce qui est sans doute encore plus beau que d'avoir la guérison, c'est d'être appelée ma fille par Jésus. Et là, d'une certaine manière, ça oblige aussi le démon à se mettre à la lumière, ce que le démon déteste. Le démon fait vivre cet homme au milieu des tombeaux, justement dans des lieux retirés, des lieux de mort, etc. Et donc quand le Christ, de manière un peu impérative, c'est pas juste question pour passer le temps. Là, c'est quand le Christ parle au démon, c'est une question impérative. Quel est ton nom? Il l'oblige à se dévoiler. Il l'oblige à aller à la lumière et à dire, ben oui, nous sommes très nombreux. Et nous sommes nombreux dans... Ah, il est temps que ça... Il... Ça, c'est le signe qu'il est temps que ça s'arrête. Ouais, bon, ouais, on va... C'est dommage qu'on aurait pu regarder comme le petit trajet de Jésus.
C'est bien
bon de la Décapole, c'est toute la région qui est à l'est du lac de Tibériade, que vous aviez la joie d'admirer il y a encore. Donc il passe de Capharnaüm qui est à l'ouest du lac, voilà, au pays des Géraséniens, donc qui est un pays où qu'on appelle aussi la Décapole, qui est un pays païen. Ça vous aura pas échappé qu'ils élèvent des porcs.
Oui.
Les Juifs élèvent rarement des porcs. Donc c'est un pays païen. Ah, mais à l'époque.
Hein.
Ah oui, ouais, c'est un interdit de la Torah.
C'était,
hein.
C'était pour ça qu'ils passaient les démons à l'époque.
Alors, il y a effectivement un...
L'économie du pays, elle a été changée.
Alors, bon, il y a deux choses. Alors déjà, pourquoi le Christ parle au démon? Donc, je pense que c'est effectivement pour le dévoiler. Et effectivement, après, il y a cet épisode des porcs. Alors bon, il y a des auteurs qui pensent que le mot grec qui veut dire 2000 a été mal orthographié et qu'effectivement, c'est pas 2000. Bon. Mais bon, si on dit 2000, je vois pas trop, voilà, c'est 2000. Après, effectivement, le Christ leur permet d'aller dans ce lieu d'impureté qui, finalement, d'une certaine manière, leur convient assez bien. C'est-à-dire que les démons, étant obligé quand même de quitter cet homme parce que le Christ leur ordonne de quitter cet homme, veulent aller dans un lieu où ils se sentiront bien. Donc ils vont dans les porcs, qui est l'animal impur pour les Juifs. Et ensuite ils se précipitent dans la mer parce qu'il y a aussi cette croyance chez les Juifs que la mer est le lieu de séjour des puissances maléfiques que Dieu, dans les premiers jours du monde, a lié, et ce qu'on appelle le Léviathan, donc il les a liés et qu'il les a mis en quelque sorte en prison dans les abîmes, au fond des mers. Et donc c'est, d'une certaine manière, pour les démons, une espèce de trajet vers l'enfer via les porcs. Ils sont obligés de quitter le possédé, donc dans la première étape, ils vont dans les porcs animal impur. Et ensuite, ils vont au fond des abîmes, qui est censé être le lieu de puissance malfaisante. Et bien, quand le Christ calme la mer, quand le Christ marche sur la mer, c'est pas un numéro de cirque, c'est pas juste pour dire, regardez, je marche sur la mer, je peux passer à Israël, un incroyable talent. C'est pas ça. C'est pour dire, justement, je suis le Fils de Dieu, non seulement je domine les éléments naturels, mais je domine les puissances malfaisantes qui, dans la croyance juive, sont censées habiter au fond des mers et justement secréter en quelque sorte les tempêtes. Oui, il y a une signification aussi profondément spirituelle. Ben parce que c'est une demande assez cohérente, donc si...
C'est un peu la peine pays aussi qui fait aussi.
C'est la peine pays aussi qui fait aussi. si la demande est cohérente, le Christ ne va pas être pervers. Il ne va pas dire ah ben non, je vais plutôt vous envoyer dans des kangourous. Là, il y a un troupeau qui est en train de passer au large de Sydney. Là, les démons, ils restent quand même intelligents. Donc, les démons, c'est pas des dieux du mal. Hein. Les démons, ils ont aussi une part d'intelligence qui fait que bah, ils peuvent. Là, en l'occurrence, c'est assez cohérent ce qu'ils proposent.
Et alors, pourquoi
Mais déjà, ça fait toujours bizarre de voir que le Christ, les démons proposent quelque chose et qu'il dit bah oui, allez-y. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'agir du démon, il n'est possible qu'avec une permission divine. Donc,
Il
devient
évidemment
quelque chose
qu'on
voyait. Ah ben, les démons, ils survivent malheureusement. Hein. Mais je vous dis, via ce petit détour, il y a une espèce de renvoi quand même vers les régions inférieures, et donc ils quittent quand même le possédé. Et il quitte quand même le pays. Hein.
Alors, mais j'ai revenu devant la vie du parti. Est-ce que c'est parce que j'ai les démons ou les filles de
peur? Oui, quand ils ont peur.
C'est pas la puissance de
l'esprit. Oui. On en revient à cette catégorie des hommes qui entendent les enseignements de Jésus, qui peuvent voir les miracles de Jésus, mais qui, loin de vouloir adhérer, aller plus loin et croire, au contraire, sont un peu paniqués. Bon, après, le possédé, lui, il est quand même très heureux. Mais le Christ le laisse d'ailleurs, un peu comme une sentinelle, pour qu'il poursuive le travail d'évangélisation. Donc, certainement, le Christ ne rend pas les armes, avec même s'il est, dans un premier temps, repoussé. Mais c'est sûr que les païens qui n'avaient pas les préparations bibliques des juifs, etc., pouvaient se dire mais voilà, que cet homme était trop impressionnant. Et puis les païens aussi avaient quand même souvent lien avec des puissances malfaisantes, donc ils se disent aussi que c'était pas très bon pour eux. Là, s'ils étaient idolâtres, si à travers le culte des idoles, des faux dieux, des démons, ils obtenaient un certain nombre de bienfaits, ils ont peut-être envie que Christ non seulement leur balance 2000 porcs, mais en plus leur enlève leurs idoles, etc. Mais c'est sûr que ça nous montre aussi que faut pas se dire la France est déchristianisée, on va arriver avec l'évangile et tout le monde va nous baiser les pieds en disant magnifique, dans notre monde déboussolé depuis 50 ans, on attendait que ce message. Il y a des gens, non. Ils n'entendent pas forcément ce message, même si. Mais parce que parfois il y a une vision un petit peu romantique de la France est déboussolée, les gens sont affamés, assoiffés, nous arrivons avec l'eau vive, avec la nourriture du salut, donc tout le monde va courir comme un Éthiopien qui va être un sac de riz de l'ONU. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il y a évidemment des personnes qui sont comme ça. Et ce sont les personnes qui sont autour de Jésus, qui lui demande ce que veulent dire les paraboles, qui effectivement ont ce cœur ouvert, et voilà, on rend grâce pour tous les catéchumènes que l'on a, et qui justement font partie de ces personnes qui veulent aller plus loin, qui ont soif, et qui sont heureux d'être en présence de l'eau vive. Mais il y en a aussi, effectivement, dont une partie du cœur a soif, et aura toujours soif de l'eau vive, et une partie qui est habituée à boire aux eaux frelatées, de l'orgueil, du pouvoir, du sexe, de l'argent, de la calomnie, j'en passe des meilleurs, et qui, pour l'instant en tout cas, ne veulent pas troquer ces eaux frelatées contre l'eau vive, parce que c'est peut-être pas bon pour eux, mais ils y boivent tellement régulièrement qu'ils ont pris l'habitude de boire. Donc c'est un peu ça qui illustre l'attitude des païens.
C'est vraiment parce que chaque fois qu'il fait des miracles, il fait déjà toujours partir les démons, il enlève déjà les démons au départ, souvent, toujours le côté impur.
C'est vraiment cette idée que pour que l'esprit pur entre, il faut déjà enlever l'esprit impur. Et quand il donnera mission aux 12, on verra après d'aller prêcher, c'est prêcher et chasser les démons. Il est toujours Et toujours cette action, on va dire, plus négative, mais c'est indispensable de déjà d'enlever les influences mauvaises pour ensuite, pour arracher les mauvaises herbes pour qu'ensuite les gens puissent...
Ils n'osaient pas au départ, les apôtres, de faire chasser des démons. Ils leur demandaient, mais ils ont attendu un petit peu. C'était bien. Ils leur expliquaient beaucoup plus tard, quand même. Pas au départ.